Bonsoir à tous. François Bayrou a sollicité un vote de confiance sur le désendettement. Le Premier ministre peut compter sur le soutien de Jean-Marie Fiévé. L'expérimentation agrivoltaïque Verbia a inauguré ce matin à Bressuire. Elle vise la production d'énergie solaire en préservant l'activité agricole. C'est une première en France. Des visons d'Europe élevés au parc animalier Zoo Odyssée ont été réintroduits dans la nature. Enfin, en football, on s'intéresse à l'ouvrage de Christophe Grimpré, conseiller technique auprès du district. Je vous donnerai également les affiches du deuxième tour de la Coupe de France.
La météo à la fin de ce journal. On attend un jeudi plutôt bien ensoleillé.
Les électeurs sont appelés à voter pour les élections municipales 2026 le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le deuxième tour. La porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, a annoncé ces dates ce midi à l'issue du Conseil des ministres. Un conseil lors duquel Emmanuel Macron a apporté son soutien total à la démarche de François Bayrou de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée le 8 septembre sur le désendettement de la France. Parmi ses soutiens, le Premier ministre peut compter sur son prédécesseur. Gabriel Attal, le chef du groupe parlementaire Renaissance, a indiqué qu'il ferait tout pour aider le gouvernement à tenir. Le groupe Renaissance a donc annoncé qu'il votera la confiance. Et parmi eux, Jean-Marie Fiévé, le député nord-de-Sévrien, salue, je cite, le courage de François Bayrou.
C'est une décision qui est pas facile à prendre, mais qui est juste, et il a raison. Il a, dans sa prise de parole, il a bien expliqué l'état de la France actuelle. Et la question, c'est pas pour ou contre François Bayrou, c'est est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'il a dit, mais s'il faut que la France fasse des économies, c'est qu'on trouve de l'argent avant d'aller se rendre sur une catastrophe. C'est ça la vraie question. Alors effectivement, moi, je suis pour, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il proposait, juste qu'il a proposé le mois de juillet. Mais sur le fond, je salue son courage et effectivement, je voterai la motion de confiance à son Bayrou et à son gouvernement. Je pense que tous les groupes politiques pourront se mettre autour d'une table pour discuter et faire des avancées, que chacun puisse faire des avancées en son sens. Et je pense que François Bayrou, il est prêt à écouter tout le monde et il faut que chacun fasse des propositions. Mais on se rend compte que tous les groupes politiques qui disent on veut plus François Bayrou, faut faire tomber son gouvernement, il propose absolument rien. Il a dit franchement, il est prêt à écouter, à discuter, à échanger. Mais il faut que tout le monde soit d'accord pour ça. Et ce sont deux possibilités. C'est pas en fait on se met d'accord et on discute autour d'une table pour essayer de que la France en sorte le mieux possible. Ou soit on fait tomber le gouvernement et derrière on va vers un chaos que je pense très très compliqué à gérer par la suite, que ce soit politiquement ou que ce soit économiquement.
Le député nord-de-Sévrien Jean-Marie Fiévé, qui votera donc pour au moment du vote de confiance le 8 septembre prochain. À ce stade, le pour est en minorité avec un peu plus de 200 intentions de vote alors que le contre dépasse les 300. C'est finalement un canular qui a mobilisé pour rien les forces de l'ordre ce matin à Cholet. Pensant avoir affaire à un forcené qui retenait femmes et enfants, les rues avaient été bouclées et le raid avait été alerté, mais l'opération a heureusement tourné court car l'adolescent du ménage est venu expliquer aux forces de l'ordre qu'il avait été victime d'un piratage la veille au soir. La thèse du canular ou du swatting, très en vogue, est donc à privilégier. Elle consiste à piéger les policiers en les mobilisant pour rien.
L'expérimentation agrivoltaïque Verbia inaugurée ce matin à Bressuire.
L'agrivoltaïsme consiste à associer sur une même parcelle la production d'énergie solaire et production agricole. Et c'est sur une parcelle qui jouxte l'agence Céolis de Bressuire, route de Riparfond, le long de la rocade, que cette expérimentation est menée depuis décembre 2023 par un consortium. Céolis, Actif Solaire et Solar SOG, soutenu par le CEDS à hauteur de 255 000 euros. La centrale s'étend sur un hectare avec 352 panneaux disposés en rangées distantes de 9 mètres, nommée Verbia. Elle est toujours en phase de test, mais les premiers résultats sont encourageants, comme l'a souligné ce matin Daniel Hausser, responsable du développement des énergies renouvelables chez Céolis Prod.
Donc il s'agit d'un démonstrateur donc de panneaux montés verticalement pour, je dirais, profiter du soleil le matin et le soir afin d'avoir une courbe de production qui correspond le mieux aux consommations électriques gérées en France. La pose verticale recto verso, c'est-à-dire une face avant qui produit 100% de la puissance, je dirais, du panneau et une face arrière qui produit 70% de la même puissance, permet d'augmenter la production parce qu'on bénéficie toujours d'un effet albédo. L'effet albédo, c'est simplement la réverbération du soleil sur le sol, sur les nuages.
Que disent les premiers résultats de l'expérimentation?
Il y a d'abord les résultats au niveau énergétique. Donc au niveau énergétique, on produit 7% de moins que des panneaux orientés sud à 20-30 degrés. Mais on bénéficie d'un meilleur, j'irais, chiffre d'affaires, une meilleure rémunération, parce qu'on produit le matin et on produit plus le matin et plus le soir. Donc aux heures où les prix d'électricité sont les plus élevés. Donc on a un chiffre d'affaires qui est, j'irais, à peu près de l'ordre de 7% supérieur, malgré 7% de baisse de production de kilowattheure.
Les résultats sont également encourageants sur le plan agronomique, selon Daniel Hausser, confirmé dans son propos par Romain Ménival, ingénieur agricole chez Impulsion. Il est missionné par Actif Solaire, l'un des partenaires du consortium, pour le suivi agronomique sur cette parcelle, une prairie plutôt humide destinée au pâturage des agnelles, en l'occurrence.
Les premiers résultats sont plutôt positifs, sachant que pour l'instant on a une année de suivi complète. Donc on a pu voir qu'il n'y avait pas de différence de production entre la zone équipée et la zone témoin. Par contre, au niveau de la qualité du fourrage, on se rend compte qu'on a un fourrage qui est plus humide, donc en fait qui va limiter les besoins en eau des animaux qui viennent pâturer la parcelle, et qui va être plus riche en MAT, donc en matière azotée totale, qui va être une des principales sources d'énergie en fait pour les animaux au niveau de leur alimentation. Le principal impact, c'est surtout en fait une diminution de l'évapotranspiration induite par l'ombrage des panneaux, mais également par l'effet coupe-vent en fait, et ce qui fait qu'on va avoir une meilleure rétention d'eau. On voit un effet significatif sur ces différents critères, mais on pense que sur une parcelle qui serait un peu plus séchante, on aurait des effets encore plus prononcés à ce niveau-là, quoi.
Et la phase de test va se poursuivre sur cette parcelle située à Bressuire, derrière l'agence Céolis. Vous avez dû avoir les panneaux si vous circulez habituellement sur le boulevard de l'Europe. Il s'inscrit dans un contexte où l'agrivoltaïsme fait débat dans le milieu agricole. On en reparlera dans une prochaine édition.
Une première en France avec des visons d'Europe réintroduits dans la nature.
Et c'est dans la vallée de la Charente qu'une partie des visons d'Europe nés et élevés au parc animalier de Zoodyssée ont retrouvé la liberté, comme cela avait été annoncé dès le printemps. 10 de ces petits carnivores hautement menacés de disparition ont donc été lâchés en pleine nature, comme nous l'explique Guillaume Romano, le directeur de Zoodyssée. C'est une première en France.
Il y a déjà eu cet événement-là dans d'autres pays en Europe, mais effectivement en France il y avait cette urgence par rapport aux menaces qui pèsent sur l'animal de aider les visons sauvages. Donc oui, c'est une première en France, ça fait des années qu'on y travaille, mais c'est le premier été où on relâche du vison dans les zones humides du pays. C'est forcément un risque parce que de toute façon la nature est belle, mais la nature est dangereuse, donc on est vraiment sur un risque. C'est pour ça que cette année seulement, entre guillemets, 10 visons ont été relâchés en nature pour que nos collègues de l'OFB, de la LPO et du GRECH puissent suivre 24 heures sur 24 les 10 individus relâchés. Et au fur et à mesure de l'expérience qu'on va assimiler, on va relâcher jusqu'à 100 visons d'ici 2031. Dans un premier temps, il y a l'intérêt de la mission de conservation du parc. C'est bien de présenter au public des animaux de la faune européenne. C'est bien aussi d'agir sur leur milieu sauvage et du coup d'aider à la protection des animaux qu'on va présenter au grand public. Et l'intérêt, il est aussi sur l'éducation à l'environnement qu'on va donner à notre public, et par les animaux qui sont présentés sur le parc, on va du coup sensibiliser en fait notre public aux menaces qui pèsent sur ces espèces.
Et les lâchés de ces 10 visons d'Europe élevés au parc animalier de Zoodyssée ont eu lieu les 7 et 25 août dans la vallée de la Charente entre Angoulême et Saint-Guillaume. Romano était au micro de D4B. On passe à l'actualité sportive. Le champion de France d'Orient, Godon, a remporté la seconde étape ce mercredi du TPC entre Jonzac et Gompontouvre au terme de 173 km de course. Il a devancé au sprint Arnaud Démare et Benjamin Thomas. Deux fois deuxième, Arnaud Démare peut se consoler avec le maillot de leader. Et puisque nous parlons cyclisme, l'épreuve de Talencia à Thouars se déroule ce mercredi. Ce soir, la seule course en nocturne des Deux-Sèvres avec une trentaine de coureurs au départ, avec la présence de plusieurs coureurs élites, dont Lucas Minguenaud qui court pour Vendée U et qui sera favori. Départ donné à 19h30.
En football, le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de France aujourd'hui. Les matchs se dérouleront dès ce week-end.
Impossible ici de donner en détail les affiches de ce second tour, mais il y a pas mal de confrontations entre clubs de Sévriens et parfois même des derbies. On pense à Coulonges-Touarçais contre Saint-Serbouillet, les Comoriens de Bressuire contre Terve, également à l'affiche aussi Valéenne, FC Autise, Amaillou-Cherveux, Venise-Vertus-de-Gâtine, Union Sud de Sèvres, Pays-Mélois, Hervaux-Montcoutan, Chiché-Mauzé-Rignier, Portugais de Cerizay contre Sporting Club Touarçais, Vrère-Saint-Léger face à Cerizay, Saint-Jean-de-Missé à Beaulieu-Breuil. Notez également les déplacements de Saint-Sauveur à Beaumont-Saint-Cyr, Interbocage à La Palue, Saint-Amand à Champigny, FC3C au Portugais de Châtellerault, Saint-Flo-Chamois à Lalleux-la-Palisse, Saint-Liguer à l'Aviron Boutonnais ou encore Gatifoot à Migné aux Anses.
Football, coup de pied dans 50 idées reçues.
C'est le titre de l'ouvrage de Christophe Grimpré, conseiller technique auprès du district des Deux-Sèvres depuis une vingtaine d'années. Il rédige des articles dans la revue Contre-pied, destinée aux éducateurs de football des Deux-Sèvres. Il les a compilés et on en a écrit de supplémentaires. Il s'attache donc à démonter des idées reçues sur des grands poncifs souvent entendus dans le football comme on ne change pas une équipe qui gagne ou penche-toi sur ton ballon, à Christophe Grimpré.
Je m'attaque aux idées reçues dans les domaines de l'entraînement et de la compétition, dans les domaines psychologiques, techniques, tactiques, physiques. Dans les domaines physiques, sur les idées reçues concernant les étirements, concernant le décrassage, concernant le travail de l'endurance, par exemple. Ensuite, dans le domaine technique, je m'attaque aux idées reçues classiques qu'on entend parfois à la télé de la part d'anciens joueurs professionnels. Il faut se pencher sous son ballon pour pas qu'il monte. Je m'attaque aux idées reçues donc concernant les aspects, on va dire, tactiques. Il faut pas relancer dans l'axe, comme on entend souvent. C'est pas parce qu'on va conserver le ballon qu'on va gagner. Donc, quand on les regarde un peu plus près, c'est quand même très majoritairement les équipes qui ont le monopole du ballon qui gagnent. Je m'attaque aussi aux idées reçues concernant les aspects psychologiques. J'essaye de aussi attaquer les lieux communs qu'on entend régulièrement au foot, comme il faut se remettre au travail. On n'a pas le droit de perdre. Les meilleurs joueurs ne font pas les meilleures équipes. La base d'une équipe, c'est sa défense. Voilà, donc je m'attaque à tout un tas d'idées reçues dans le foot.
Et si le ton est parfois impertinent, il n'en demeure pas moins que les articles sont très argumentés. Christophe Grimpré, toujours interrogé par Patrice Bemanangi.
J'essaye justement d'avoir une sorte de ton impertinent, sans pour autant être donneur de leçons. Alors après, je m'appuie sur des études scientifiques, sur des études faites par la Fédération Française de Foot, sur des chiffres, des statistiques, par l'exemple de l'histoire des grands faits dans l'histoire du sport, notamment en foot. Et puis je m'appuie aussi sur des anecdotes, mais en même temps, je m'appuie quand même aussi sur mon expérience longue de 30 ans maintenant, qui m'a permis de croiser beaucoup de monde, des entraîneurs professionnels, des entraîneurs de haut niveau, Didier Deschamps, pour parler de celui qui est peut-être au plus haut poste actuellement.
Football, coup de pied dans 50 idées reçues, ouvrage de plus de 250 pages de Christophe Grimpré, publié par les éditions Amphora au prix de 17 €. On en reparlera un peu plus longuement dans un prochain SMD, Sport Matin Dimanche, qui va bientôt faire son retour. Un accident de la circulation à minuit 40 à Mel. La nuit dernière, une BMW conduite par un homme de 66 ans a coupé la départementale sans voir arriver une Mercedes pilotée par un homme de 33 ans, pas de blessés parmi les conducteurs et leurs passagères.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et Fabien, après, somme toute, un mercredi assez nuageux.
Oui, retour des éclaircies demain avec un temps même plutôt bien ensoleillé, ce qui n'empêche pas les températures d'accuser une nouvelle baisse avec des maximales cette fois-ci qui plafonnent à 21 à 22 degrés pour les températures minimales demain matin, comptez une quinzaine de degrés.
Merci beaucoup Fabien, c'est tout pour l'info auprès de chez vous ce mercredi. Elle revient demain matin.
Demain matin à 7h avec Patrice Bemanangi. Bonne soirée.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.